Allons maintenant voir un autre personnage périphérique, on peut dire, de ce récit de la Passion, c'est Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie qui figure dans les quatre évangiles au moment de la mise au tombeau de Jésus. Vous l'avez en Matthieu 27, en Marc 15, Luc 23 et Jean 19. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et enleva son corps. Nicodème, qui est aussi le personnage qui apparaît uniquement dans Jean, qui précédemment était venu vers lui de nuit, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec les aromates, selon la manière d'ensevelir en usage chez les Juifs. Or, au lieu où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne n'avait été encore mis. C'est là, à raison de la préparation des Juifs, le sépulcre étant proche, qu'ils mirent Jésus. Donc c'est en Jean 19. Je trouve ça intéressant de méditer à partir de la figure de Jean d'Arimathie parce que ça remet un peu les choses en perspective par rapport à notre foi. On dit souvent qu'il y a trois religions du livre. Vous entendez souvent cette expression, c'est les religions du livre. Bon, on fait allusion à l'islam, au judaïsme et au christianisme. Le christianisme n'est pas une religion du livre. Le christianisme est une religion du corps, et singulièrement le catholicisme. Quand vous regardez dans notre foi catholique, la présence du corps est multiple. Bien sûr, on pense au corps de Jésus qui était sur la croix, de Jésus historique, mais ensuite le corps glorieux, c'est-à-dire où la gloire de Dieu se diffuse dans ce corps. Ensuite, il y a le corps mystique qui est l'Église, hein, nous formons un corps, le corps eucharistique. Voilà, c'est. Au fond, il y a des corps un peu partout, si on ose dire l'expression, dans la foi catholique, c'est une religion charnelle. C'est une religion charnelle. Et pourtant, si vous faites un micro-trottoir, vous entendrez beaucoup de personnes dire non, l'Église a une vision négative du corps, et singulièrement de la sexualité. Alors d'où ça vient? Parce qu'en fait, c'est étonnant, parce que c'est juste quand vous regardez ça. Vous voyez dans certains écrits, on va détailler après, mais comment le corps a été malmené par certains dans la tradition catholique. C'est étonnant parce qu'en fait, on est par définition la religion de l'incarnation, donc la religion du corps, hein, la religion de la médiation. Et ça, c'est extraordinaire. C'est toute la médiation que le corps du Christ nous donne par rapport au salut est vraiment formidable. Donc, du coup, mais d'où ça vient ce côté négatif? Alors, moi, il y a peut-être plusieurs hypothèses. J'en ai trouvé deux, en tout cas. Premièrement, que les premiers chrétiens étaient des néoplatoniciens. Vous vous rappelez, même si vos études de philosophie sont un petit peu lointaines, Platon, donc l'âme prisonnière du corps, pour aller contempler le monde des idées, qui est le vrai monde, mais qui n'est pas dont le monde visible n'est que la figure, que l'ombre. Vous vous rappelez du mythe de la caverne, etc. Donc il faut se défaire du corps pour être des hommes spirituels et contempler les réalités d'en haut. Évidemment, pour les premiers chrétiens, c'est quelque chose qui a parlé. Et vous voyez, par exemple, dans Saint Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Il y a une vision clairement négative. Et de la sexualité, je vais dire encore plus. La femme est pour le Seigneur, etc. L'homme est pour le Seigneur. Mais ceux qui brûlent, ben voilà, qu'ils se marient. Mais en fait, c'est vraiment un pis-aller. Si vous n'en pouvez plus, mariez-vous. Mais en fait, votre vocation, voilà, c'était de contempler Dieu et dans la chasteté, etc. Et lui-même, Paul, parlera il a une épine dans la chair. Alors de quoi il s'agit? Est-ce qu'il avait un problème avec la chasteté? C'est possible. Bon, ça, personne ne le saura vraiment. Mais en tout cas, on voit dans Paul, tant du mariage que du corps, il y a une image négative. Et ça vient peut-être de cette notion de néoplatonicien. Ensuite, il y a, me semble-t-il, une autre raison, c'est que progressivement s'est développé avec la naissance du monachisme, donc de la vie monastique, en Orient comme en Occident, le fait qu'au fond, les moines, c'était les parfaits. C'était les parfaits, c'est-à-dire ceux qui sont consacrés complètement à Dieu, hein, et donc c'était eux qui étaient montrés en exemple. Et donc progressivement, on voit très clairement dans saint Augustin, par exemple, qui n'a pas une bonne vision du mariage, autant s'en faut, mais en revanche, la vie monastique est mise en avant dans beaucoup d'écrits, etc. C'est la manière la plus parfaite de suivre le Seigneur. Et donc, vous avez pendant des siècles ce discours qui est tenu, avec parfois des moments comme ça un peu pique, comme avec les dames de Port-Royal, hein, où on disait elles étaient pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons, hein, avec ces moments où justement l'exaltation de la pureté en dehors du corps, hein, le jansénisme, hein, et qui finalement a été condamné par l'Église. On voit, il y a des pics comme ça de temps en temps, où on peut parler aussi du rigorisme moral du 19e siècle. Faut pas confondre, on confond souvent le jansénisme, qui est une erreur sur la grâce plutôt, que le rigorisme moral du 19e siècle, avec l'époque victorienne aussi, etc. Donc c'est intéressant d'être attentif à ça, de dire au fond, il y a eu plusieurs pics dans l'histoire de l'Église, il y a certainement d'autres, où il y a eu des tentatives, j'allais dire, de mépriser le corps et de le rabaisser, alors que nous sommes la religion de l'incarnation. Il a fallu attendre deux choses pour, j'allais dire, redonner au corps et au mariage ces lettres de noblesse. Évidemment, le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II a rappelé que nous sommes tous appelés à la sainteté. Hein, quel que soit notre état de vie, nous sommes appelés à la sainteté. Les personnes mariées aussi sont appelées à la sainteté. Et ensuite, évidemment, le grand discours de Jean-Paul II, la théologie du corps, qui porte le nom, c'est un ensemble de catéchèses, donc ça fait partie de l'enseignement ordinaire du pape, hein, de son. Et ce corpus, on lui a donné le nom de théologie du corps, c'est le magistère ordinaire du pape, donc ça a une valeur, en tout cas pour les croyants, les fidèles catholiques, ça a une valeur importante. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on n'a pas fini d'exploiter parce que c'est une pensée qui est difficile. La pensée de Jean-Paul II est une pensée difficile parce que c'est un mode de fonctionner à la slave, donc un peu en revenant en boucle sur un certain nombre d'idées, etc. C'est tout à fait une manière différente du pape Benoît XVI, hein, qui est à l'occidental pour aller de A à C, on passe par B, donc nous on arrive plus facilement à suivre cette pensée-là. Mais la pensée de Jean-Paul II est une pensée très complexe, mais avec une vraie dimension de réhabilitation du corps et de réhabilitation et de la beauté de la sexualité. Parce que n'oublions pas que nous sommes à l'image de Dieu aussi dans notre corps. Il n'y a rien de sale dans le corps humain. Ce qui est sale, c'est ce qui est dans le corps, ce qui est dans le cœur de l'homme ou de la femme, mais dans le corps humain, il n'y a rien de sale. Mais on a parfois déconsidéré la sexualité, déconsidéré le corps. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la pensée de Jean-Paul II par rapport à ça? Il dit deux choses. Premièrement, il rappelle l'union qui, au fond, cette pensée qui a été prise aussi par saint Thomas d'Aquin, l'union, ce qu'on appelle substantielle de l'âme et du corps. Vous aviez, contrairement à Platon, où il y avait une sorte un dualisme, hein, de séparation on voit d'autres philosophes, hein, séparation de l'âme et du corps, la pensée de l'Église s'est appuyée sur Aristote. Hein, et donc l'union substantielle de l'âme et du corps, c'est-à-dire que et la séparation, la brisure de cette union, c'est ce qu'on appelle la mort. Hein. Ce que je vis avec mon corps, je le vis avec mon âme pas au sens religieux, hein, au sens philosophique, c'est-à-dire l'âme comme principe de vie, principe de ma vie de mon intelligence, de ma vie, de la volonté, principe de ma sensibilité, principe aussi du fonctionnement de mon corps. Donc, c'est intéressant de voir que la science moderne, et singulièrement les sciences humaines, avec les maladies psychosomatiques, hein, psychosomatiques, c'est et la psyché et le corps, qu'il y a évidemment une interaction. Hein, ce que j'ai vécu avec mon corps influe sur mon âme, et ce que j'ai vécu avec mon âme retentit aussi sur mon corps. Donc, c'est de cette pensée-là que l'Église catholique parle, de l'union substantielle de l'âme et du corps, ce qui fait aussi que, avec la résurrection, hein, là, c'est la résurrection de la chair, c'est pas simplement que l'âme est en état, j'allais dire, de souffrance, hein, tant qu'elle n'est pas, elle n'a pas retrouvé son corps, mais c'est son corps, c'est pour ça que nous ne croyons absolument pas à la réincarnation. Bon, il y a chaque tradition religieuse est respectable, etc., mais nous ne croyons absolument pas à la réincarnation, parce que c'est ce corps-là qui a façonné ce principe de vie, et ce principe de vie qui a été à l'origine et au fonctionnement du corps. Donc du coup, il y a une identité entre les deux. Donc c'est tout ça intéressant de repartir de ça, de cette union entre les deux. Ce que je vis avec mon corps n'est pas détaché, hein, de ce que je vis spirituellement. Hein, et ce que je vis dans mon intelligence, dans ma sensibilité, etc. Parfois, on entend des personnes qui disent telle relation extra-conjugale, mais c'est que sexuelle. C'est faux. C'est absolument faux. Une relation sexuelle n'est pas que sexuelle. Parce que précisément, mon âme et mon corps sont unis. Hein, donc c'est intéressant Et Jean-Paul II, donc pour revenir à Jean-Paul II, il dit plusieurs choses. Donc il s'appuie sur Aristote, et ce que saint Thomas d'Aquin a commenté avec l'union de l'âme et du corps, mais il va plus loin, il dit le corps rend visible l'invisible. Hein, et il parle du corps de Jésus, du corps du Jésus historique, hein, de ce qui est le sac qui rend visible, qui me voit le Père, donc rend visible ce qui est invisible. Et en méditant sur cet enseignement dans cette retraite de Semaine Sainte, je me suis dit, tiens, par rapport à Nicodème, je trouve qu'il y a, au fond, Nicodème, vous savez, hein, il était membre du Sanhédrin, donc c'était quelqu'un qui avait vu Jésus de nuit, hein, il apparaît uniquement dans Jean, hein, dans Jean 3, où il y avait le grand discours avec Jésus, etc. Dans Jean 7 aussi, vous voyez apparaître Nicodème. Lors des fêtes de Pâques aussi, alors que Jésus est présent à Jérusalem, Nicodème prend la défense de ce dernier, dont il est précisé qu'il n'a pas encore 50 ans, voilà, et qu'il a, dans une réunion de Sanhédrin, après l'échec d'une arrestation de Jésus par des gardes du temple. Voilà, donc Nicodème, c'est un personnage qui est important, et Nicodème figure aussi dans l'évangile de Jean, toujours, au moment d'embaumer. Hein, donc le passage que je vous ai lu, Jean 19, hein, où il apporte avec lui 100 livres de, comment c'est dit, ça, Nicodème, qui était venu de nuit, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Et par rapport à la vocation de rendre visible l'invisible, je trouve que le corps de Jésus, le fait que Nicodème ait apporté ses aromates, rend visible son attachement au Seigneur. Alors qu'il était venu de nuit pour parler avec Jésus, alors qu'il avait pris sa défense lors d'une réunion de Sanhédrin, etc. Mais en fait, il est venu ensuite, mais là pour le coup, il ne s'est pas caché. C'était au vu et au su de tout le monde que Nicodème a pu découvrir justement qu'il était disciple de Jésus en prenant soin du corps. Et le fait de Joseph d'Arimathie ait réclamé le corps, qui n'est pas si fréquent que ça, parce que bien souvent les condamnés étaient mis dans la fosse commune, ceux qu'on réclamait pas en tout cas, voilà, on les laissait pourrir, on les laissait, voilà, et puis finalement on les enterrait, mais dans une fosse commune, etc. Pourquoi est-ce que Pilate a autorisé que le corps de Jésus soit donné à Joseph d'Arimathie? Donc, la position de Joseph d'Arimathie, qui est un notable, certainement, et peut-être Pilate aussi, c'est une interprétation personnelle, est-ce qu'il n'avait pas une forme de remords parce qu'au fond, même s'il était assez considéré comme un homme assez dur, hein, difficile, hein, voire cruel, hein, mais cet homme n'a fait aucun mal. Et il voyait bien qu'il y avait une manipulation de la foule par les grands prêtres. Mais que par rapport à Baradas, qui était un bandit, un meurtrier, etc., cet homme-là n'avait pas. C'était un rabbi qui défendait une théologie, une interprétation, comme d'autres aussi on aurait pu défendre. Donc, est-ce que c'est ça? Vous vous rappelez, dans un moment donné, sa femme lui dit: J'ai eu un songe, ne touche pas la vie de cet innocent, etc., etc. Donc, toujours est-il qu'il a accepté de remettre le corps de Jésus et donc descendu de la croix, et puis alors souvent on représente avec Marie qui porte le corps, là, le Pietà, c'est plutôt une tradition ça, et puis ensuite, mais c'est lui qui s'est occupé du corps de Jésus. Et moi je trouve ça intéressant de faire mémoire aussi de tous ceux qui s'occupent des corps. Il y a beaucoup de gens qui, ben, évidemment, on pense aux soignants, qui s'occupent des corps de tant d'hommes et de femmes, d'enfants, etc. Et de dire qu'à travers le soin du corps, c'est aussi le soin de toute la personne. Parce que un deuxième aspect qui ressort très fort dans la pensée de Jean-Paul II, non seulement que le corps rend visible ce qui est invisible, hein, que ce soit pour le corps de Jésus, mais Jean-Paul II va plus loin et dit, dans l'union intime des époux, ça rend visible, au fond, ça actualise leur sacrement, ça, c'est une célébration de leur sacrement. Donc il va très loin dans la visibilité d'une transcendance dans l'union du corps des époux. Et je trouve que il dit autre chose, il dit le corps dit la personne. C'est-à-dire que avoir contact avec la personne, c'est avoir contact avec son corps et inversement. Donc on touche la personne de l'autre à partir de son corps. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'une personne est un légume. Vous entendez parfois cette expression, les personnes qui sont soit en coma, soit en fin de vie, etc. C'est très actuel actuellement, le débat sur la fin de vie. Ben, c'est des légumes. Ben, non, le corps nous donne accès à la personne. Et on ne sait pas du tout, et on nous demande toujours d'être très prudent quand on est au chevet d'une personne qui est en état de coma ou même de faim. Qu'est-ce que cette personne entend? Hein, et parfois, on a été surpris de gens qui se sont réveillés du coma et qui ont été témoins et qui ont entendu des choses. Donc, c'est aussi le contact avec la personne qui est donné à travers le contact avec le corps. Et je trouve c'est beau de. C'est une des raisons, en tout cas, pourquoi on appelle Marie Mère de Dieu. On n'y pense pas toujours à ça, mais pourquoi est-ce qu'on appelle? Parce que, ben, par définition, Dieu n'a pas de mère. Vu comme ça n'a aucun sens. Et dans la tradition catholique, Marie est mère de Dieu, mais ce n'est pas la médiation du corps. Parce qu'elle est mère du corps du Christ, hein, de son corps charnel. Mais comme le corps dit la personne qui, pour ainsi dire, habite ce corps, pour faire simple, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le Verbe. Donc, on peut dire par la médiation du corps, on peut dire que Marie est mère de Dieu. Donc, ça nous renvoie justement au fait que notre foi catholique, comment dire, c'est une foi qui est tellement. Nous sommes la religion des médiations. Je vous l'ai dit déjà beaucoup, le judaïsme, j'y consacre beaucoup de temps et j'écoutais comme ça les commentaires d'un professeur sur les psaumes, et à un moment donné, il dit, nous n'avons de médiation que les consonnes. Nous n'avons de médiation que les consonnes. Parce que vous le savez, en hébreu, il n'y a que des consonnes. Et la Torah qui est donc composée que de consonnes, et entre chaque, j'allais dire, entre chaque consonne, ben, ce qu'on appelle vocaliser, et en fonction des voyelles que vous mettez, vous avez tel mot ou tel autre. C'est pour ça que je pense que, au fond, le fait d'être juif, ça veut dire aussi faire parler les silences. Parce qu'entre deux consonnes, il y a un silence. Hein, et je relie ça aussi avec mon ministère auprès des couples, ma formation comme thérapeute de couple et puis beaucoup de sciences humaines, etc. On voit beaucoup de juges très impliqués, c'est assez intéressant parce qu'il y avait des très grands noms, hein, que ce soit les psys, les thérapeutes, ou dans des écoles de coach, etc., etc. Parce qu'il y a l'habitude de faire parler les silences. Et quand on est thérapeute, qu'on pose des questions et on fait ce qui n'est pas mis en avant, ce qui n'est pas verbalisé, à travers les questions, on tente de le verbaliser dans le contact qu'on a avec la personne qui est en demande d'aide. Et donc, je trouve ça intéressant de faire le lien entre cette manière de voir des juifs qui n'ont que les consonnes. Et donc, ils font parler des silences. Et notre foi catholique, qui, elle, c'est un festival de médiation. Je veux dire, nous sommes la religion des médiations. Tout est médiation. Je veux dire, si vous voulez, plus j'avance comme prêtre, plus je trouve que, quelque part, une certaine pauvreté des sacrements. Un peu de pain, un peu de vin, un peu d'eau versée sur le front d'un enfant, quelques paroles entre un homme et une femme, et c'est le ciel qui s'ouvre. Mais c'est énorme. Nous croyons que ce sont des lieux de médiation, mais nous pensons aussi, ben évidemment, à la nature qui est aussi une médiation, hein, différemment. Hein. Donc, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul sacrement, qui est le Christ. On peut dire qu'il y a, c'est analogique, comme donc il y a sept sacrements qu'on connaît bien. On peut dire que la réalité est sacrement. On nous renvoie à l'invisible. Hein, donc, c'est intéressant d'être attentif à ça et de dire que nous sommes la religion du vertige. Nous sommes la religion du vertige, parce que précisément, nous sommes la religion des médiations. C'est par la médiation du corps du Christ, par la médiation du Christ et dans le Christ, toutes les médiations qui nous ont été données, la médiation des saints, la médiation de la Vierge Marie, la médiation voilà, des sacrements, la médiation de ce qu'on appelle les sacramentaux aussi, voilà, des réalités concrètes qui nous mettent, qui sont signes de l'invisible. Nous avons accès à l'invisible. Mais quand vous entendez un commentateur juif vous dire, et c'est la foi juive, nous n'avons de médiation que les consonnes, c'est énorme. C'est-à-dire, la différence est abyssale, quoi, entre la foi chrétienne et singulièrement la foi catholique et la foi juive. Hein. Je pense que c'est bien d'en prendre conscience que nous sommes la religion du vertige, quoi. Il y a quelque chose de vertigineux, parce que nous sommes la religion de la disproportion. Vous voyez, nous sommes la religion de la disproportion. Il y a une disproportion entre ce pain et ce vin posés sur l'autel, et après l'épiclèse, la consécration, ce corps et ce sang du Christ. Il n'y a pas de commune mesure, si vous voulez. Il n'y a pas de commune mesure entre quelques paroles échangées un jour devant l'autel entre un homme et une femme et toute une vie qui est embarquée. Vous voyez, c'est extraordinaire, je trouve, de vivre comme ça. C'est vraiment une grâce tout à fait particulière. C'est notre manière de vivre. Le chrétien vit comme ça. Le visible est le sacrement de l'invisible. Parce que aussi le corps, ça commence par le corps humain, hein, qui rend visible, et ça le pape Jean-Paul II, l'invisible, et qui est signe de toute la personne. D'où l'importance à cette réhabilitation du corps humain par le pape Jean-Paul II, et de cette réhabilitation de l'appel à la sainteté de tous les baptisés. Alors ça met du temps, parce que on parle de siècles qui ont été dans une négativité du corps, voire un rejet du corps dans certaines périodes, sous prétexte de spiritualité. Donc il va falloir beaucoup d'années pour assimiler cette pensée de Jean-Paul II et assimiler aussi le Concile Vatican II, hein, pour nous rappeler justement la beauté de chaque vocation et la beauté du corps humain. Hein, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu dans tout notre corps, hein, donc aussi là, donc de voir justement Joseph d'Arimathie qui descend le corps qui le. Et dans Jean, on voit là que il y avait un jardin. Hein, au verset 41, 41, Jean 19, 41. Évidemment, vous pensez à quoi? Ben le jardin d'Éden. Il y avait un jardin avec un homme endormi et le côté ouvert. On ne peut pas ne pas faire, en tout cas, les pères de l'Église se sont régalés en faisant la comparaison avec Adam. Adam, plongé dans un sommeil, dans un jardin, de son côté, est née la femme. Hein, comme aussi du côté transpercé du Christ est née l'Église. Donc c'est pour ça qu'on parlera du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. C'est une recréation. C'est une recréation. Et je trouve que c'est très beau de découvrir justement ce parallèle, le fait de prendre que Joseph d'Arimathie ait passé son tombeau. On pense que c'était un tombeau d'une personne assez riche, un sépulcre neuf en pierre. Bon, en tout cas, il semblerait que la tradition nous rapporte ça, etc. Donc, je trouve ça très beau de voir ce soin qu'il a pris du corps de Jésus. Et peut-être nous rappeler aussi que comment est-ce que nous-mêmes, déjà prendre soin de son propre corps, parce que nous savons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, le chrétien porte en lui-même plus que lui-même. Vous voyez? Le chrétien porte en lui-même plus que lui-même. Ne savez-vous pas, dit Saint Paul, que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai, mais il parlait de son corps. Hein, et tout chrétien, tout baptisé, parce qu'il est greffé sur le Christ, prend conscience de la beauté, non pas plastique, hein, la nature parfois est cruelle, bon, mais la beauté spirituelle, c'est comme un tabernacle. D'où le fait du respect du corps de l'autre, que le corps soit toujours un sujet, et non pas objectivé, un objet, comme on le voit dans toute cette heure. C'est là où on voit que notre société a perdu la finalité du corps. Et c'est pas les médecins qui vont donner la finalité du corps. Hein. Je parlais avec quelqu'un qui dit, bon, dans une préparation mariage, ils n'ont pas parlé de sexualité, ce qui est un peu particulier, mais ils vont faire venir des médecins pour parler de la sexualité. Mais non, les médecins, c'est des techniciens. Ils vont vous parler de ce qu'ils connaissent, d'hormones, ils vont vous parler de muqueuses, ils vont vous parler de tissus, etc. Bon, d'équilibre. Bon. Mais soit il y a un vrai problème médical dans l'union intime qui empêche l'union, mais ce n'est pas eux qui vont vous donner la finalité, qui est au fond le corps qui est fait pour la communion. C'est ça la finalité. Et que ce soit pour les époux, mais aussi le consacré. Pour le consacrer, le corps est signe d'une communion. Parce qu'en renonçant à la vie matrimoniale, en embrassant l'abstinence, pas seulement la chasteté, vous savez que la chasteté, c'est un conseil évangélique qui n'est pas valable que pour les consacrés. Hein. La chasteté, c'est avoir une juste distance par rapport au corps de l'autre, voire et donc à la personne de l'autre. L'autre n'est pas ma possession. Hein, mais là, c'est une consécration dans l'abstinence de relations sexuelles, etc. Il est signe aussi d'une communion. Son corps est signe. Hein, comme une sorte de poteau indicateur vers la vie éternelle. Hein, il est aussi signe de l'invisible. Comme les époux chrétiens, quand ils s'unissent, célèbrent hein, ce mariage, réactualisent les grâces du mariage, hein, pour ainsi dire, signe de l'amour de Dieu pour son peuple. Et c'est pour ça, entre autres, ma petite digression, qui est pas, on s'éloigne un petit peu de Joseph d'Arimathie, mais c'est pour ça, entre autres, que dans la la logique catholique, les relations sexuelles avant le mariage ne sont pas ordonnées à la. Parce qu'en fait, il y a une logique quand vous regardez le mariage, comment c'est construit? C'est d'abord une parole qui. Donc des époux qui se donnent le consentement, ensuite qui se fait chair, dans l'union intime, qui rayonne dans la fécondité des enfants, mais pas que. Hein, la fécondité d'un couple, c'est très varié. Et pourquoi c'est comme ça? Quel autre sacrement fonctionne comme ça? Quel autre sacrement? Vous avez l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est parole, donc la liturgie de la parole, le corps, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et la communion, hein, la communion qui est la fécondité spirituelle, hein, et le salut qui nous est apporté. Et pourquoi c'est cet ordre-là? Parce qu'on peut, il faut remonter. De quel mystère, en contemplant quel mystère, on arrive à cet ordre dans l'amour? Mais le mystère de l'incarnation et le Verbe, la parole de Dieu, celui qui dit tout Dieu, s'est fait chair et il a habité parmi nous, parole, corps, fécondité. Donc je trouve ça intéressant de dire quand l'Église, et vous qui êtes là, vous avez peut-être eu des relations sexuelles, mais bon, en tout cas pour la grande majorité d'entre vous, vous n'avez pas eu de relation matrimoniale. Alors techniquement c'est pareil, mais au niveau du sens, ça n'a rien à voir. Parce que le fait d'avoir des relations hors mariage, c'est-à-dire que la relation que vous avez ne rend pas visible l'invisible, n'est pas une célébration au niveau spirituel et au niveau du sens. Vous voyez, donc je crois que c'est intéressant de comprendre le pourquoi, au fond, de la position de l'Église, qui est assez peu entendue, disons-le simplement, parmi nos contemporains, parce que de façon générale, on a perdu la finalité du corps. C'est aussi une des conséquences du péché originel. Hein. Ils étaient nus et en avaient honte, alors que Adam était nu, et c'est intéressant de voir que le Christ sur la croix était nu. Ils étaient nus, et cette nudité exprimait le sens du corps avant le péché originel. Hein, c'est la vocation, comme dit Jean-Paul II, la vocation sponsale d'épousailles. Le corps vu dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire la lumière de la beauté de la personne. Mais dès qu'on, dès après le péché originel, voilà, on voit ce que nous dit le texte sacré, voilà, et ils se sont cousus des pagnes, ils étaient nus, alors qu'il n'y avait pas de honte avant, il y a eu une honte de se voir nus, parce qu'on n'est plus dans la lumière de Dieu, on voit le corps de l'autre comme un objet de jouissance. Et tu domineras, ton désir dominera, Dieu dit à Adam, dominera sur ta femme. Hein, donc c'est plus des relations de contemplatives, de communion, c'est des relations de domination. Alors que le corps est fait pour la communion. Et l'union intime des corps est là pour nourrir la communion des époux. Comme aussi le corps du Christ livré et que nous accueillons en chaque Eucharistie, eh bien, est là pour nourrir notre communion avec Dieu. Hein, c'est beau et je trouve que au cœur même de cette semaine sainte où, et de ce voilà ce, de replacer où on a écouté la passion donc hier soir on a écouté la passion et on a vu tout ce qu'avait subi le Seigneur etc. et qu'aujourd'hui samedi saint on par exemple c'est l'éclipse du corps, voilà, le corps n'est plus visible. Hein, vous savez, quand vous êtes auprès d'une personne qui est décédée, le fait d'avoir encore son corps, c'est encore un contact avec la personne. Et là, le corps a été enseveli. Le corps a été enseveli, il est plus visible, il est plus. Il sera visible uniquement, j'allais dire, la présence de Jésus sera visible ensuite spirituellement et singulièrement. Après la Pentecôte, autant les apôtres ont été assez muets avant la Pentecôte, n'ont pas beaucoup parlé, etc., de peur de se faire avoir, de peur d'être condamnés, je ne sais quoi. Mais autant après la Pentecôte, ils font des discours formidables, quoi. Hein, donc, c'est eux qui, par l'Église naissante, rendront visible, hein, le corps du Christ. Donc, prendre soin du corps aussi, c'est aussi prendre soin de la communion dans l'Église. Et ça, c'est le rôle singulièrement des évêques, mais pas que. Je veux dire, c'est le rôle de chaque baptisé, d'être attentif à cette communion. J'aime beaucoup ce texte du pape Jean-Paul II dans le nouveau millénaire qui commence, où il parle de la spiritualité de la communion. Il dit faire de l'Église l'école et la maison de la communion. C'est ça que le dessein de Dieu, répondre au dessein de Dieu et aux attentes profondes des hommes. Ce que les hommes attendent de nous, comme disciples de Jésus, que de notre du corps que nous formons. Saint Paul a une très belle allégorie par rapport au corps. Le pied ne peut pas dire non à l'oreille, l'œil, etc. Je n'ai pas besoin de toi, etc., etc. Nous, parce que nous formons un seul corps. Et le fait de voir que la perte de la finalité du corps fait que on voit l'humanité comme une juxtaposition d'individus et non plus comme une famille. On se voit plus comme un corps. Chacun a son désir, sa volonté, voilà, mon choix, me, ma, mais, voilà, c'est. Et ça va, on va à notre perte avec ça. Parce que c'est pas ça qui est au commencement. Au commencement, c'est une communion. Nous sommes à l'image d'un Dieu qui est communion. On croit en un Dieu unique, mais on ne croit pas en un Dieu solitaire. Vous voyez, donc, je trouve ça. Très beau de prendre soin du corps qu'est l'Église. Alors, comment en prendre soin? Il y a plusieurs manières, mais en tout cas d'être attentif à la communion. Et c'est souvent ça qui choque le plus, vous entendez. Alors, parfois c'est une justification, mais c'est aussi vrai. Oui, mais ensuite, quand je vois les gens aller à messe et comment ils se comportent après, comment ils se critiquent les uns les autres, comment ceci, comment cela, etc., ben ça blesse le corps du Christ, ça blesse l'unité. De l'Église qui est l'unité du corps du Christ. Parce que ça blesse la communion. Vous voyez, donc, toi, avec cette figure de Joseph d'Arimathie qui s'engage, de même Nicodème qui s'engage, qui rend visible son attachement, maintenant il peut plus dire qu'il n'était pas. Maintenant il s'affirme disciple, avant il était en secret, hein, donc. Comme Nicodème, pareil, hein, que Nicodème, mais là maintenant, le fait de recueillir le corps, d'en prendre soin, de l'embaumer, on imagine aussi toute cette délicatesse, cette pudeur aussi, face à encore une fois nu, on le représente avec un pagne, parce que bon voilà, il y a une pudeur, c'est bien comme ça dans les représentations, dans les tableaux, dans les statues, etc. Mais ce n'est pas la réalité. Hein, moi, j'ai une expérience particulière, mais quand je faisais mes études de philosophie à l'IPC, on logeait en face dans un foyer avec un autre frère, et on avait une chambre gratuitement en échange de un foyer de personnes handicapées, en échange de garde, voilà, des week-ends. Et pendant ces week-ends, on était invité à aider les enfants, les personnes, ce n'est pas des adultes, hein, handicapés, à prendre leur douche. Bon, c'était la première fois que personne nu comme ça en face de moi. Je veux dire, c'est pas si facile que ça. Je veux dire, ça demande toute une pudeur. Ça demande de faire au maximum que la personne puisse, voilà, elle-même se nettoyer. Bon, puis voilà, je trouve c'est pas facile face à un corps nu comme ça qui est livré entre vos mains, et en forcerie, le corps, j'ai lacéré, blessé, etc., du Christ que Joseph d'Arimathie a recueilli, et que, voilà, il a pris soin de ça, il a pris soin des blessures, et il a fait que, voilà, il y a une attention, et je trouve c'est une figure qui est très touchante, je trouve c'est vraiment. Cette figure de cet homme, voilà, de ces deux hommes, hein, qui sont Nicodème et puis Joseph d'Arimathie, qui sont attentifs à prendre soin du corps, parce que vous savez que c'est le fait d'enterrer, c'est ce qu'on appelle des œuvres de charité. Les œuvres de charité charnelles et spirituelles, mais là, c'est les œuvres corporelles et spirituelles. Mais là, c'est une œuvre de charité. Comme donner à manger, c'est une œuvre de charité corporelle. Mais enterrer les morts, c'est une œuvre de charité corporelle. Alors, bon, dans nos sociétés, dans notre temps moderne, bon, y a des services qui sont là, dédiés pour enterrer les morts, etc. Mais si vous vous trouvez en temps de guerre, avec des milliers de morts autour de vous, etc. Mais comment est-ce que quelle est la dernière charité que je peux donner à cette personne dont le corps blessé gît là comme ça? Est-ce que je vais la laisser sans sépulture et donc manger par les rats, par les bons? Ou est-ce que je vais l'enterrer pour la préserver de ça, quoi, pour déjà préserver son voilà, c'est son intégrité, je ne sais pas si on peut dire ça, mais sa dignité. Que ce ne soit pas les rapaces qui s'en emparent, ou les chacals, ou quel animal sauvage qui viendrait y trouver sa pitance. Oui, il y a une charité à enterrer. Je trouve ça, c'est la dernière charité, c'est enterrer les morts. Hein, parce que c'est. Voilà, c'est. Alors, je trouve ça beau de voir cette figure de Joseph d'Arimathie qui est là et qui recueille ce corps, qui s'expose. Son attachement pour le Christ est rendu visible, comme pour Nicodème. Hein, le corps rend visible l'invisible. Hein, il ne peut plus faire semblant après. Et bon, on ne sait pas ensuite sa place dans le Sanhédrin, etc., etc. Mais bon, comment ça s'est passé? Certainement, ça a été très mal vu. Hein, donc, attachement au corps du Christ et le fait qu'il se soit mouillé, pour ainsi dire, pour le Seigneur, pour lui donner une sépulture convenable. Alors, nous-mêmes, peut-être c'est l'occasion, durant ces jours saints, de reméditer sur la place du corps. Ce sont des jours aussi, le corps est très sollicité. Que ce soit par le jeûne, que ce soit par les actes de piété, etc., etc. Donc, et puis on le donne à contempler. On a vu hier soir, quand on a vénéré la croix, on a embrassé le corps en croix du Christ qui nous était présenté par le prêtre. Bon, c'est de dire, voilà, ce corps humain que nous avons, le corps des autres, d'en prendre soin, de redonner la beauté, de redonner à notre société qui, on voit bien, a perdu complètement la finalité du corps, que ce soit en ses commencements, hein, des enfants qui ne naîtront jamais, alors, et comme en sa fin, les personnes qui sont en fin de vie, mais voilà, on pense que voilà, une fin de vie, c'est une vie. Et c'est un corps qui dit sa personne. Et ça, je crois que. D'où l'importance de retémoigner de la beauté, de la grandeur du corps humain, de la beauté, de la grandeur de la sexualité, et aussi du mariage, que notre corps, il est fait pour la communion. Hein, il est habité par une communion, on appelle l'inhabitation de la Trinité en nous, c'est très fort, parce qu'aussi, notre finalité, c'est de rendre visible une communion.